Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Notre Bible, et comme nous l'avons chanté il y a un instant, eh bien, puisque Dieu nous ouvre des voies merveilleuses, alors on va en ouvrir une parmi tant d'autres dans notre Bible, le Nouveau Testament, le message de l'Évangile, dans l'Évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 7. Voilà. Chapitre 7, et ça fait partie des belles paraboles que le Seigneur a laissées aux hommes. Et celle-ci, eh bien, c'est vrai qu'on la commande très très peu. Et j'aimerais quand même, eh bien, qu'elle nous serve à notre édification, à la construction de notre foi. Alors écoutez bien, et peut-être en réponse à des réflexions que nous pouvons nous faire dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, Luc, chapitre 7, verset 28. Jésus dit, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Voilà l'explication parabolique maintenant que nous laisse Jésus. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il ? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ennemi des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà. Et bien que le Seigneur nous conduise dans cette réflexion, c'est une image. Et elle doit finalement, eh bien, interpeller notre conscience et nous amener, finalement, à être des enfants de la sagesse. Voilà, c'est la conclusion que nous avons trouvée dans cette petite lecture. Dès l'abord, je voudrais vous dire que Jésus traite dans cette parabole un sujet d'une grande importance, on pourrait peut-être le qualifier de crucial, observer, que nous pouvons observer, que Jésus avait lui-même observé en son temps, observé partout, et dans toutes les époques de l'histoire, hier et aujourd'hui. Je vais utiliser un mot que vous connaissez, mais je vais lui donner un peu plus de signification et je vais l'amplifier. C'est l'apathie morale et spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apathie morale et spirituelle, c'est-à-dire le désintérêt face à l'appel de Dieu. Dieu appelle les hommes dans tous les temps, à travers tous les siècles, dans toutes les générations, et nous voyons que le résultat devrait être tout autre que ce que nous constatons aujourd'hui dans notre 21e siècle. Comme Jésus l'a constaté au milieu de son peuple lorsque lui est venu en Messie au sein d'Israël. Et permettez-moi, constatation finale de la vie de Jésus au moment de sa passion à la croix, il restait pas grand monde, hein. Il y avait très très peu, finalement, de personnes. Alors, le mot apathie signifie l'insensibilité ou l'indolence. Vous comprenez? C'est-à-dire l'absence de passion. Et quand je parle de passion, En ce qui concerne Dieu, c'est toujours une passion pure et vraie. Ce qui doit présider dans la vie d'un homme ou d'une femme, lorsqu'il y a une rencontre avec Jésus, c'est certainement les plus beaux jours, les plus merveilleux moments de notre vie. À ce moment-là, on devient passionné de Dieu, dans la sagesse, dans l'équilibre, dans l'amour. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une véritable révolution. Absence de passion. C'est un état permanent de mollesse, on pourrait l'expliquer de cette manière, dû à un manque de volonté. Parce que, comprenez-vous, que notre vie, eh bien, c'est comme un bateau avec un gouvernail et des voiles. Notre vie, ça pourrait être comparé, excusez-moi, c'est peut-être un peu trivial, mais comme une voiture qui n'aurait pas de moteur, ni volant, ni de carburant. Ça va pas très loin, hein. On fait du surplace. Parce que la volonté, c'est ce qui nous permet de décider nous-mêmes ce que nous voulons. Si oui ou non, Dieu est Dieu. Si véritablement nous croyons à ces paroles qui nous font la description, qui nous donnent les prérogatives de Dieu, parce qu'il est amour, il est justice, il est vérité, il est vie éternelle, alors à ce moment-là, nous disons oui, il est vie éternelle, mais ça ne me concerne pas. Par contre, si nous comprenons qu'il y a une autre dimension d'éternité pour chacun d'entre nous, un besoin d'amour, un besoin de vérité, de liberté, alors à ce moment-là, eh bien, nous allons être véritablement passionnés. La passion de Christ nous parle, nous dit Paul. C'est une forme d'engourdissement, comme les dix vierges avant le retour de l'époux. Elles se sont endormies, une période d'indifférence, une léthargie, une somnolence, comme une torpeur. Et l'Église d'aujourd'hui, parce que j'entends bien et je partage quelquefois les préoccupations des enfants de Dieu, vous, lorsque nous voyons qu'il y a si peu d'intérêt pour Dieu, qu'il y a si peu de passion, un grand désintérêt. Et on se dit, mais Seigneur, mais on devrait avoir 10 salles à Saint-Nazaire où on prêcherait l'Évangile, vous vous rendez compte? Depuis 40 et quelques années que cette association cultuelle a été créée, dans un monde normalement chrétien, parce que on n'est pas dans une situation où, eh bien là, on prêche à des peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Ça fait plus de 20 siècles que l'Évangile, que le message de Dieu, que la Bible, que le nom de Jésus parcourt finalement nos pays occidentaux, nos pays européens, notre France. Regardez ce que déjà constaté le grand prophète Ésaïe, et c'est Dieu qui parle à travers lui. Dieu dit, et au peuple d'Israël, un peuple pétri dans la connaissance, normalement supposée connaissance de Dieu, Dieu dit, « Je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu. Je vous ai parlé et vous n'avez pas écouté. » C'est déjà la constatation qui a été faite il y a 28 siècles du temps du prophète Ésaïe. Il s'agit naturellement d'un comportement qui va jusqu'au mépris de l'Évangile. Je parle du peuple d'Israël. Quelle qu'en soit la façon dont l'Évangile est présenté encore aujourd'hui à notre monde, dans notre temps, à la génération qui est la nôtre, avec tous les moyens, tous les médias, tous les porteurs extraordinaires, parce que ça reste pas moins extraordinaire tout ça, jusqu'aux extrémités de la terre. La façon, la manière, l'exposition de l'Évangile. Et c'est d'autant plus incompréhensible que les besoins humains d'aujourd'hui sont encore plus grands et, ou peut-être différents de ceux d'hier, les besoins de l'homme sont immenses. Oui, on peut parler d'immensité, et que Dieu qui nous invite à lui, à l'écouter, en est la réponse parfaite. Parce que Dieu est la réponse parfaite à tous nos besoins et tous nos problèmes, et il apporte les solutions que nous avons besoin. Nous ne serions pas là si nous n'étions pas convaincus que c'est Dieu qui est Dieu et qu'il a la réponse. Naturellement. Serions-nous plus qu'un tout petit nombre dans cette situation à dire que Dieu est Dieu, que Dieu est vivant, qu'il est ressuscité et que l'Évangile est un message merveilleux? Serions-nous que les derniers? Dieu merci, il doit y en avoir d'autres, comme du temps d'Élie, qui pensait qu'il était resté seul, et Dieu lui dit, mais mon pauvre Élie, tu vois pas ce que je vois? Je te dis qu'en Israël, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi encore le genou devant Baal. Vous connaissez bien votre Bible. Alors, donc, attention à ce que nous voyons et les réalités de Dieu, mais nous aimerions être une famille plus nombreuse. Vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, nous souffrons de cette carence aujourd'hui. Mais Jésus l'a constaté, Ésaïe l'a constaté dans un peuple qui était pétri finalement de cet appel de Dieu. Et tout cela se caractérise par notre génération, les hommes, à travers un refus, à travers un rejet du bonheur possible. Oui ou non, l'évangile rend-il heureux les gens? La question. Si ça me rend malheureux, alors à ce moment-là, il faut te mettre tout en cause. Mais si je suis convaincu que ça me rend heureux, alors je vais courir. Je vais me précipiter, je vais être rempli de dynamisme et d'enthousiasme. Et non seulement je vais accaparer pour moi-même ces trésors divins, mais je vais le partager avec les autres. Écoutez bien cette parole qui nous est laissée également par Ésaïe. Parce que vous allez deviner, vous la connaissez. Dieu dit, approchez-vous de moi et écoutez. Approchez-vous. Et puis écoutez-moi. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et Dieu reste encore aujourd'hui. En 2012, il est encore là. Et maintenant, dit le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Parce que c'est la vie de l'esprit qui fait vivre. C'est pas la lettre, c'est pas la loi, c'est la vie de l'esprit. Ainsi, par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, pas pour ton mal, pas pour ton malheur. Pas pour une médiocrité d'existence, mais pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et ce verset que je mets tout à fait en, je surligne, il est dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Oui. Ton bonheur serait comme le sable. Ta postérité serait comme un fleuve. Alors, est-ce que cela se réalise? Est-ce que cela peut se réaliser? Mes frères et sœurs, nous avons peut-être besoin de revoir notre consécration vis-à-vis du Seigneur et demander à Dieu véritablement que nous soyons des gagneurs d'âmes. Mais c'est pas tant par nos paroles, il faut parler. Mais il faut vivre notre foi et donner envie aux autres de venir à ce Dieu qui est tellement pressé de donner le bonheur et le salut aux hommes, à ses créatures. Alors pour comprendre le sujet qui nous intéresse, nous vous avons devant nous Jésus qui scrute l'attitude de sa génération aux réactions puériles. Le mot est juste, et je vais vous faire la démonstration. Des réactions puériles et irrationnelles. Si je propose à quelqu'un de boire un poison avec moi, c'est tout à fait rationnel qu'il le refuse. Ce serait même intelligent d'ailleurs, sauf la tromperie. Mais si je propose à quelqu'un de bon, de formidable et d'excellent, eh bien à ce moment-là, c'est aussi logique qu'il accepte. Or Dieu vient vers nous avec une coupe de bénédiction, de délivrance et de salut, et les gens disent « on n'en veut pas ». Ça, c'est puéril. À l'image, comme nous l'avons lu un instant, à l'image d'enfants capricieux dont les traits de caractère négatifs, en plus de l'apathie dont je vous ai dit indifférence, somnolence et mollesse, sont la critique et la versatilité. Un enfant, avant d'être formé et préparé pour être un homme, eh bien, a des réactions enfantines, puériles, irrationnelles, c'est normal. C'est un enfant, il ne peut pas encore avoir l'âge de raison. Et souvent, eh bien, il est là en train de se chamailler, c'est de la critique. Et il change d'avis très souvent. Pour en faire un homme, il va falloir qu'il soit structuré. Et Dieu veut que les chrétiens, les enfants de Dieu, soient aussi dans cette situation. En fait, ça met en évidence un état d'esprit de bouderie. Vous connaissez Bouddhi Bouddha? Ben Bouddha, c'est autre chose, hein. Je parle pas de lui, hein. Voilà. Il y a des gens qui, quelquefois, et quelquefois des adultes, c'est dommage, hein. Ça me plaît pas. Voilà. Ouais. Récalcitrant, voire même contestataire. À l'humeur maussade. Des gens qui ne peuvent pas se réjouir de ce qui est bien, l'humeur maussade de ses contemporains, de jouer le jeu de la foi et de la grâce. Je le dis de cette manière. Ouais. Alors on va prendre ça sous une forme de jeu. Quelque chose de ludique, parce que c'est ce que Jésus nous présente, hein. Le jeu, la belle aventure de la foi et de la grâce. C'est formidable. Ça donne envie de rentrer dans le jeu, naturellement. Mais, dans ce que Jésus nous explique, par rapport à ses contemporains, tout a été paralysé et a fait échouer l'effet attendu du plan de Dieu. C'est ce que nous avons lu à un moment donné. Il nous est dit que les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser, ne se faisant pas, finalement, eh bien, ne voulant pas rentrer dans le jeu de cette belle prédication donnée par Jean-Baptiste, eh bien là, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu voulait les sauver. Dieu voulait les bénir, tous ces gens-là. Mais ils se sont dit, ah, ça ne nous plaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de confesser ses péchés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ceci et cela, d'un inconnu, là, qui vient à nous en vêtements de peau de chameau? Remarquez, il faut dire que c'est assez original, on ne voit pas beaucoup par chez nous aujourd'hui, hein. Hein? Mais bon, toujours est-il que, et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet homme, il sort des cavernes, ceci et cela? Alors, on évacue tout cela. Mais en ne voulant pas, c'était pas le personnage qui était important. C'était pas la manière dont il est habitué, c'était pas le caractère même de sa vie, parce que bon, il avait quand même une vie sainte, hein, Jean-Baptiste. Mais c'était surtout la force des paroles qu'il apportait. Le royaume de Dieu est proche. Il vient celui qui, eh bien, me succédera et il viendra sauver le monde. Comment? C'est pas possible une chose pareille. Bon, on est déjà sauvé, on n'a pas besoin de salut, on n'a même pas besoin de Dieu. Alors, deux voix se sont élevées à cette époque. L'une après l'autre, l'une annonçant l'autre. L'un criait dans les déserts, l'autre parlait aux foules immenses. De fait, ils ont parlé à des foules immenses tous les deux. Mais le message était amplifié par le deuxième. Le premier, Jean-Baptiste, portait le nom donc que je viens de citer, et le second de Jésus Emmanuel, Messie pour Israël, Sauveur, Rédempteur de tous les hommes à travers tous les temps. En fait, Jean-Baptiste était prophète. C'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Après lui, il n'y en aura plus d'autres. Jésus, je l'ai signalé, porte le message, l'espérance de la consolation d'Israël. Il est le Messie. Il va se présenter comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs, comme le bon berger, comme la porte pour rentrer dans la maison. Le chemin qui mène à cette maison céleste, comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme la vérité dans un monde de mensonges, y compris toutes les déformations que les hommes avaient fait de la loi de Moïse, qui était pourtant la vérité, mais ils l'avaient défigurée, ils l'avaient complètement modifiée. Et puis Jésus va se présenter comme la vie, hein. Face à la réalité terrible de tous les temps, c'est que toutes les créatures de Dieu, les créatures humaines, à un moment ou à un autre, nous allons mourir. Jésus dit « Je suis la vie ». Et puis bien d'autres choses. Écoutez bien, il ne fallait pas moins que le premier pour proclamer au monde l'espoir venu du ciel et la proximité de la réponse de Dieu. Et il ne fallait pas moins que le second, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour agir. Pour aimer, pour apaiser, pour guérir tout cet océan de souffrance d'une humanité moribonde. Le premier est la voie, le deuxième est l'accomplissement. Le premier est en quelque sorte le bourgeon, le deuxième est la fleur qui s'épanouit. Ils sont tous les deux vérité de Dieu, mais il y a une progression. Jésus est venu redonner du courage de vivre et de croire à tous les malheureux. Écoutez, la primeur de son message commence par ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre libres les captifs, et pour annoncer une année de grâce au Seigneur, de la part du Seigneur. Et Jésus continuera un peu plus tard cette belle parole, qui est en quelque sorte le cœur d'espérance de l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà la voie. Voilà la réponse. Pourtant, le vent de la grâce de Dieu a soufflé fort, même très fort pendant 3 années, à travers des guérisons, à travers des miracles, à travers des résurrections, à travers des paroles sublimes. Mais le petit lumignon d'Israël, dans les cœurs et dans les âmes des hommes, eh bien, ne s'est pas enflammé. Et ça, c'est terrible. Comme nous pourrions le souhaiter nous-mêmes encore aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'Évangile ici ou ailleurs, que le cœur des hommes s'enflamme devant une si bonne nouvelle, alors que nous vivons dans un monde où il y a tant de mauvaises nouvelles. Ça ne suffit pas aux hommes, les mauvaises nouvelles. On croirait qu'ils n'aiment pas les bonnes nouvelles. C'est terrible, hein? Eh bien, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu. Le petit lumignon ne s'est pas enflammé, bien que Jésus ait dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume, je ne vais pas casser le roseau qui est déjà à terre, qui est brisé. Au contraire, je vais le relever. » Et c'est toute l'explication de la parabole que nous avons lue il y a un instant et que nous allons apporter un commentaire. C'est une image qui traverse le temps et définit avec exactitude le comportement humain face à l'appel de Dieu. S'il y a des hommes qui savent ce que c'est que la difficulté de prêcher l'Évangile, c'est quand même les prédicateurs, hein, les pasteurs et les évangélistes. Ça, c'est vraiment le souci. C'est vraiment ce qui pèse sur notre cœur tous les jours. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'on peut inventer aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'ont fait les hommes hier à Jésus? C'est facile, hein. Ils se sont débarrassés de lui en le clouant à la croix du calvaire, en le faisant mourir. Ça s'appelle la crucifixion. Quel accueil ferons-nous aujourd'hui à Jésus? Quel accueil? Quelle est aujourd'hui la tendance de notre temps, de notre monde, de notre réalité dans cette société moderne, enfin, voilà, qui se dit moderne dans plusieurs égards, et sur le plan moral et sur le plan spirituel, c'est pas du modernisme. On est encore embourbé dans toutes sortes de superstitions, dans toutes sortes de doctrines déviationnistes, toutes sortes de choses. Hey, on n'est pas en haut, on est en bas, hein. Alors, prêchons l'Évangile. Et je reprends. Jésus dit, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? Et à qui ressemble-t-il ? Ils ressemblent aux enfants assis sur une place publique et qui, se parlant les uns et aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte. » Ah, Jésus s'intéresse d'abord sur la ressemblance à donner à ses contemporains. Il les voit tous les jours, il vit au milieu d'eux. Et il se dit, mais qu'ils ressemblent, ils ressemblent véritablement. Eh bien là, vraiment à des enfants. Ce sont pas des gens mûrs, ce sont pas des gens matures, ce sont pas des gens qui, tout en ayant et en professant aimer la justice, réclamant à corps et à cri la justice et la vérité, et puis tout le reste, finalement ils n'en veulent pas. À qui et à quoi? Qui sont-ils ces gens? Mais que font-ils ces juifs? Que font les hommes de notre génération pour refuser les bienfaits de Dieu? Oh, la réponse peut-être, elle serait peut-être simple et facile. Je pourrais simplement vous dire que nous vivons dans un monde d'abondance, de matérialisme, et je pense que l'horizon, il est très bas, hein. Il n'y a pas de perspective à la verticale, hein. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Est-ce que c'est un but? Alors, Jésus va dire, ils ressemblent à des enfants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas mûrs, des gens qui sont pleins, frappés d'immaturité et qui ne veulent pas grandir. Vous savez, c'est une préoccupation, hein, pour des parents. Quand vous avez un garçon ou une fille qui sont encore à la maison à 35-40 ans, parce que c'est bien chez papa et maman. Alors s'ils attendent d'avoir 120 ans pour sortir de la maison, les parents vont avoir, ils seront disparus d'ici là. Hein. Non, non, mais les tanguis, ça existe. Hein. Jésus prend un exemple à travers ce jeu enfantin qui se jouait sur la place publique de tous les villages d'Israël, et puis bien sûr ailleurs, puisque peut-être y avons-nous joué aussi dans la cour de récréation, peut-être nous-mêmes, ce jeu d'enfant que l'on appellerait maintenant, que l'on appellerait de nos jours, le jeu de mime. Bon, ça tous les enfants y jouent, hein. Ou alors, la devinette de geste. Il y a la devinette orale où on fait une charade, par exemple, et on devine. Mais là, c'était une devinette de geste. Alors, je vais vous expliquer. Ils ressemblent donc à des enfants assis sur la place publique et qui, se parlant aux uns les autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Alors, je vais vous réexpliquer, parce que c'est peut-être vieux pour certains d'entre vous, la règle du jeu. D'accord ? Prenez note, hein. Parce que peut-être qu'après le culte, vous allez pouvoir essayer. Alors, la règle du jeu était simple. Les enfants se partageaient en deux groupes. Deux groupes. Le premier groupe devait exécuter une scène de la vie ordinaire qu'ils avaient observée depuis qu'ils étaient tout petits. Voilà. Ça, c'est la première chose. Le second groupe, pour montrer qu'ils avaient compris, qu'ils avaient deviné le mime qui avait été fait devant eux, devait entrer dans le jeu, tout simplement, et achever la scène commencée. Il y avait déjà les prémices au départ de gestes, et puis après, ils devaient spontanément, avec enthousiasme, comme les enfants savent le faire, quand ils ont compris quelque chose, ils se précipitent, les enfants, hein. Des fois, pour les calmer, parce qu'ils sont tellement énervés que... voilà. Donc, il y avait cette réciprocité, en quelque sorte, et ça fonctionnait. Et ça faisait rire les enfants, naturellement. Alors, l'exemple nous est donné, au mime de joueur de flûte, les autres devaient représenter une noce et des danses. Je vous jouerai pas de la flûte, hein, parce que là, c'est la catastrophe. Mais, voyez le geste, comme ça. Les enfants qui voyaient ça, alors, en Israël, on danse. Et il y avait des réjouissances, et tout ça dans le silence. Mais ils devaient donc représenter ce qu'ils pouvaient être, peut-être, eh bien, les réjouissances de la noce et autre chose. À ceux qui chantaient des complaintes et qui étaient là d'une manière tellement triste et accablée, et ça se voyait naturellement, c'était facile à deviner, les autres devaient former un cortège funèbre, par exemple, et pleurer bruyamment, comme on le fait en Orient. Alors le jeu était, à ce moment-là, accompli. Nous avons fait, ils ont compris. Nous avons fait, et bien ils sont en train de donner la réponse. Et ça faisait rire les enfants, parce qu'il y avait certainement des choses comiques, naturellement. Mais voilà, comme il arrive souvent dans les jeux des enfants, il y avait des boudeurs. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de chrétiens boudeurs. Ouais. Je boude, je suis pas content. Alors, quelquefois on se boude entre nous, mais quelquefois bouder devant Dieu, Dieu nous dirait, mais écoute, t'en es encore là. Après 40 ans de conversion, tu boudes encore. Voilà. Donc, certains boudeurs ne voulaient pas jouer, c'est-à-dire répondre à l'invitation et participer. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Ça, c'est tout simplement la stigmatisation que Jésus fait d'une mauvaise volonté. Voilà. Mauvaise volonté. Je peux pas jouer. C'est pas bien. C'est toujours pareil. Oh là là. J'espère que je vous choque pas, hein, quand même. La parabole s'éclaire en compréhension quand on sait que les enfants animateurs du jeu, c'est-à-dire le premier groupe, écoutez bien, représentent Jésus et Jean-Baptiste. Eh oui. C'est eux qui sont les animateurs du jeu de la vie. Du jeu de la foi, du jeu de la grâce nouvelle que Dieu donne aux hommes. Ce sont eux dans la parabole. Jean-Baptiste, qui ouvre le jeu, et Jésus, qui est en train de représenter, finalement, eh bien, tout ce que peut comporter le royaume des cieux. Il l'a fait à travers des guérisons, à travers des signes, à travers des prodiges, à travers des paraboles comme celle-ci, à travers des messages extraordinaires et merveilleux, à travers des gestes de tendresse, des gestes d'amour, des regards remplis de compassion de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est Jésus et Jean-Baptiste. Ceux qui sont invités, vous et moi, à travers tous les siècles, tous les temps, les juifs y compris, c'est-à-dire le deuxième groupe, typifie à la perfection les contemporains de Jésus et tous les hommes en général jusqu'à nous qui restent sourds et fermés à l'appel de l'Évangile. Vous croyez que les gens ne comprennent pas quand on leur dit « mais Jésus veut vous délivrer, vous guérir de vos maladies, Jésus veut pardonner vos péchés, il veut enlever peut-être la haine et tout ce qu'il y a de profondément mauvais, il veut que vous soyez des hommes libres. » Vous croyez que les gens ne comprennent pas ce langage? On ne parle pas, c'est pas de l'hébreu, hein, ni du latin, quoi qui pendant des siècles et des siècles c'était en latin qu'on s'adressait aux hommes. Je comprends qu'ils n'ont pas compris. Ça me donne une idée, je veux faire des cultes en latin maintenant. Bah, peut-être que les gens qui viendront comprendront peut-être un peu mieux. Non mais, aïe aïe aïe, c'est terrible hein, ça. Ouais, l'appel de Dieu est compréhensible. Quand Dieu dit « je veux te faire du bien », bah, la réaction quelquefois, les gens... Ils ont tellement peur et la crainte de Dieu qu'ils disent « Mais oh là là Seigneur, qu'est-ce qui va me tomber ?» Dieu nous dit « Mais je veux te faire du bien. Tu n'en veux pas de ce bien. Tu ne veux pas être béni. Tu ne veux pas de ma grâce, de ma vie. » Les gens ont des réactions bizarres. Alors Jésus explique maintenant une conduite aussi négative de ses contemporains en commençant par la vocation de Jean-Baptiste et ce qui a caractérisé le ministère de ce grand prophète Jean. Jean le Baptiste, qu'est-ce qui a caractérisé son ministère chez Jean? La réponse nous est donnée. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Et Jésus d'ajouter, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Voilà, il a un démon, il est pas bien notre Jean-Baptiste là. Il mange pas de pain, il boit pas de vin. Alors il est pas bien, ça doit être un homme éthéré, un homme qui doit venir d'une autre planète. Parce que je voudrais ajouter, c'est que Jean-Baptiste a proclamé le salut de Dieu. Pas moins que le salut de Dieu, préparant l'évangile. Et la particularité de son message est d'être un message très solennel et très grave. Préparez les voies du Seigneur. Il abaissera toute colline qui s'élève, il rehaussera toute vallée, les chemins tortueux seront redressés. C'était un message puissant, un message solennel, un message très grave et très fort. Et l'essentiel de son message portait sur quelque chose qui est incontournable pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Il faut le dire, hein. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, parce qu'il vient. Celui que j'annonce. D'où les propos de Jésus, chanter des complaintes. Parce que le message de Jean-Baptiste était là pour amener les gens à être renvoyés à eux-mêmes dans une réflexion de conscience et d'âme et de dire, mais finalement on a vécu notre vie, mais sans jamais penser à Dieu, sans véritablement mesurer les choses. Et nous nous apercevons que devant ce message qui est un message de Dieu, eh bien, nous sommes interpellés pour faire quelque chose, pour nous rapprocher de Dieu, pour revenir vers Dieu. Donc, Jésus parle tout simplement, eh bien, de complainte. Et pourquoi? Parce que l'homme, quel qu'il soit, on lui donnera un nom, l'homme pécheur, d'où qu'il vienne, est dans un état de mort morale et spirituelle, et que le seul moyen d'être pardonné de Dieu et de rentrer dans son salut, c'est de pleurer sur nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, renoncer. Portez votre croix. Si vous voulez vous approcher, eh bien, il faut vous dépouiller de toutes ces choses inutiles qui encombrent votre vie et votre existence, de votre existence. C'est de se repentir de ses fautes et de le faire sincèrement. Parce que déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre, nous dit Jean-Baptiste. Et je vous ai apporté un message qui parle de grand sérieux de Dieu, donc des complaintes, et vous n'avez pas finalement pleuré. Sur votre misère intérieure, vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas réagi. Ça, c'est de l'apathie, vous comprenez? Et aujourd'hui, quand on prêche encore ce type de message qui peut être prêché, c'est pas pour ça que les gens se repentent tout autant. Alors Jean-Baptiste annonçait un message de jugement pour éviter finalement d'être jugé. C'était en quelque sorte, eh bien, un antidote en disant, attendez, hein, ça c'est comme le code de la route, hein, si vous ne le respectez pas, vous allez avoir la condamnation et puis quelquefois des conséquences beaucoup plus graves. Donc c'est un message de caractère de jugement, une réflexion des consciences profondes, mais professant une rigueur de vie. Et il avait tout l'aspect extérieur aussi parce qu'il vivait dans les déserts. Il mangeait des sauterelles. Et c'était un ascète. L'évangile présenté sous cette forme très sérieuse pouvait et devait toucher des cœurs, mais pas n'importe quel cœur, comme aujourd'hui. C'était les cœurs particulièrement, le cœur des pharisiens orthodoxes, des observateurs traditionnels ou traditionalistes, les puritains et les rigoristes, les tenants de la morale et des principes. Eux, ce message de Jean-Baptiste leur était envoyé, parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils ne vivaient que de ça. Ils avaient une conception de Dieu et du royaume de Dieu, dans des règles, dans des formes, etc., des choses très très serrées. Ça faisait partie aussi du plan de Dieu, naturellement. Et quand Jean-Baptiste leur a dit, mais c'est pour vous que ce message, ce type de message, ce caractère de message, cette atmosphère de message, il est pour vous, pour ces gens de ce caractère-là. Et Dieu, par Jean-Baptiste, a offert une grâce merveilleuse aux hommes, sous l'aspect austère et sentencieux de la loi. De la loi, vous avez entendu? Ça, c'est important. Et la réponse a été, on n'en veut pas. On ne veut pas. Pourtant, c'était leur vie à ces pharisiens et à ces docteurs de la loi. Nous n'en voulons pas. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas dansé. Et ça a été même les plus terribles parce que ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus. Et le message leur était destiné pour qu'ils passent de la loi à la grâce. Le premier contact pour les pharisiens et les docteurs de la loi, c'était de leur annoncer la loi pour les amener à la grâce et les amener à la foi. Nous n'en voulons pas. Alors Dieu a essayé un autre moyen pour attirer ses créatures à lui. Et Dieu a imaginé un programme de message qui était tout à fait le contraire. Écoutez, c'était un appel à la joie, à la liberté et à la fête de l'âme. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons joué de la flûte. Au verset 34, le Fils de l'homme, donc entendez-la par là, Jésus est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un publicain, un ami de mauvaise vie. C'est pas de la bouderie, ça? C'est pas de la résistance? C'est pas une attitude contestataire? Jésus a présenté le royaume de Dieu sous un autre visage très différent, celui de la réjouissance. Ouais. Parce que la joie, elle provient de la foi. La foi nous fait rentrer dans la grâce de Dieu sous le message de la réjouissance. Quand il a parlé de la parabole des noces, entrez, parce que tout est déjà prêt, réjouissez-vous, parce que je marie mon fils, dit le roi. Il nous a présenté également ce message sous celui de la tendresse et de l'amour. Le fils prodigue qui revient dans la maison du père, qu'est-ce que c'est? C'est le pardon, c'est l'amour et la tendresse. Jésus nous a présenté ce message, cet autre visage, celui de l'épanouissement de la vie. Le bon berger, il rentrera, il sortira, parce que je veux que mes brebis aient la vie en abondance. Jésus nous parlera également d'un message tout différent de Jean-Baptiste, celui de l'espérance d'une consolation. C'est le sermon sur la montagne, les béatitudes. Heureux serez-vous lorsque vous pleurerez, lorsque vous aurez faim et soif de ceci, de cela, parce que le royaume de Dieu est à vous. C'est pas un message différent, ça? Jésus nous a présenté également sous ce message de Dieu sous l'aspect de la plénitude éternelle, la Samaritaine. Celui qui croira en moi, eh bien, des fleuves d'eau vive jailliront jusque dans la vie éternelle. Il nous a présenté également le message de Dieu, celui de la délivrance des malheureux, tous ces actes de guérison que nous voyons qui remplissent les pages de nos quatre évangiles. le bien qui est fait. En un mot, Jésus a présenté aux hommes le visage d'un Dieu de pardon, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de compassion et d'un Dieu de miséricorde. Ah, ce n'est pas la même présentation que Jean-Baptiste. L'un et l'autre sont dans le plan de Dieu. Jésus est allé vers tous les hommes, les grands et les petits, les croyants et les non-croyants. Il s'est penché sur toutes les détresses humaines, physiques et morales. Il a tendu ses mains, au meilleur comme au pire. Quand on pense qu'il touchera un lépreux un jour, et qu'il sauvera in extremis le brigand sur la croix. À juger le péché en absolvant le pécheur, dixit la femme adultère, Jésus n'a pas fait l'erreur, comme nous le faisons si souvent, finalement de condamner le péché et le pécheur en même temps. Mais Jésus a bien fait la différence. Ce n'est pas un message de grâce. Nous vous avons jouer de la flûte. Et la flûte de Jésus, eh bien, se décline sur toutes ces notes des paraboles et des belles histoires que nous avons. Nous avons joué de la flûte. Et vous n'avez pas dansé. Et pourtant, hélas. Pour l'un, vous dites, il a un démon. Il est pas bien. Il y a quelque chose dans sa tête qui ne va pas chez Jean-Baptiste. Et puis pour l'autre, on hausse les épaules en disant, bah, il est pire que nous. Vous vous rendez compte? Il mange avec des prostituées. Il va dans des maisons que nous ne mettrions pas les pieds parce que bon, c'est des maisons impures. Donc c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Dieu s'est abaissé, je dis bien, Dieu s'est abaissé vers les hommes et leur a donné le meilleur qui puisse satisfaire à tous les besoins immenses de leur cœur, d'une façon ou d'une autre, et la réponse a été non. D'une façon ou d'une autre, la réponse a été nous n'en voulons pas. Tout simplement, nous vous avons joué de la flûte. Et vous n'avez pas, finalement, eh bien, dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec les hommes? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et peut-être pour nous rapprocher, peut-être nous-mêmes, qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous faire entendre? Que notre bonheur, ce bonheur que nous n'avons peut-être pas saisi ou encore compris, ou nous sommes peut-être pas rentrés dans la plénitude. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous, avec ses enfants, ses propres enfants? Ne devenons pas comme les Israélites du temps de Jésus, où Dieu dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte, parce que c'est quand même dommage. Je veux pas aller jusqu'à dire que nous allons perdre notre salut, mais nous allons perdre notre vocation et la mission que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est dommage. C'est un grand dommage de passer à côté du plan merveilleux que Dieu nous a donné. Que Dieu nous donne véritablement de croire qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan d'intimité. Un plan de, au niveau du sentiment. Au niveau de la réussite de notre vie. Au niveau du bien que nous pouvons faire autour de nous. Au niveau peut-être de la vie professionnelle et de toutes sortes de choses. Seigneur, donne-moi vraiment d'être au plus juste, à la plus grande justesse de ta pensée, de ton plan, de tes desseins pour moi-même. Vous savez que c'est quelque chose de formidable d'appartenir au Seigneur. Moi, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie tout jeune. Ouais. Je ne l'avais pas commencé avec le Seigneur, mais il m'a pris lorsque ça commençait dans une vie d'adulte, une tout jeune adulte, jeune homme. Et aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Et on en parle avec Myriam. Et on prie souvent, tous les jours. Et on dit Seigneur, merci pour la vie, la belle vie que tu nous as donnée. Enfin, on n'est peut-être pas encore au bout, hein, mais bon. Mais toujours est-il que... ça paraît pas, mais ça passe. Hein. Formidable, hein, 40 ans. C'est bien. Hein. C'est formidable. Et... écoutez, je vais terminer. Le remède était à la hauteur de la maladie. Pour les uns, pour les autres, pour les pharisiens, avec leur rigueur morale, avec tout cela, et puis pour les autres, publicains, gens de mauvaise vie, prostituées, etc., je dis bien que le remède était à la hauteur de la maladie, parce que le Seigneur se trompe pas dans les doses hein, du médicament, hein, il se trompe pas. Hein. Mais le malade n'en a pas voulu. Ça peut nous arriver quelquefois. Hein. Le médecin nous prescrit un médicament, et puis il est infect. Bah, remarquez, c'est pas un bonbon. Hein. Mais quelquefois, il y a des vertus quand même pour nous aider, pour nous guérir, pour nous soulager, pour enlever la souffrance et quelquefois nous délivrer du mal. Et le malade n'en a pas voulu. Il l'a rejeté et de dire « Jean-Baptiste, c'est un mystique et un illuminé, moi j'en veux pas. » Alors non. Jésus, vous me proposez Jésus, mais c'est un mangeur et un buveur. L'évangile, c'est quand même quelque chose de plus sérieux que tout cela, hein. Alors ils n'en ont pas voulu non plus. Reste à bien comprendre qui de Dieu et des hommes est le plus sérieux dans cette affaire. Ouais. Les pharisiens disent, mais nous sommes des gens au-dessus du panier. Nous, les hommes, collés montés, oh, on ne se mélange pas, on ne touche pas, on ne fait pas ceci et cela, etc. Bon, nous sommes quand même, en quelque sorte l'élite du peuple. Et puis les pauvres qui avaient trempé dans toutes sortes de choses, disons-le, sordides, effondrement moral, prostituées qui avaient vécu dans toutes sortes en caniveau. Voilà, ben, c'est eux justement. Et c'est ce qu'il nous est dit à un moment donné. Quand il nous est dit que tout le peuple a rendu et même lui a rendu témoignage, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean. C'est ça justement. Alors fallait-il attendre que ces pauvres gens le fassent alors que les autres ne le voulaient pas, tout simplement? Ouais. C'est Dieu quand même qui est sérieux et c'est Dieu qui sait ce qu'il fait quand il appelle les hommes. Des gens trouveront toutes sortes d'arguments. Dieu d'accord, c'est vrai, je suis d'accord avec Dieu en tout, mais à la condition de « Seigneur, si tu voulais, si tu te montrais, si tu faisais des miracles, si tu descendais de ta croix, hein, ça vous rappelle quelque chose. Hein. » Et devinez quoi? Les gens disaient « Mais on croira en toi. » Eh oui, mais quelquefois Dieu reste silencieux devant ce genre de proposition, de prière insensée adressée à Dieu. La guérison, certains diront « Oui, je veux de la guérison parce que j'ai besoin de la guérison. » Mais tu fais vite, Seigneur, parce que je déteste attendre quand je souffre. Hein. Eh bien, le Seigneur va prendre son temps. Voilà. Une vie heureuse, mais tout le monde veut une vie heureuse. Qui nous fera voir le bonheur? Mais tout le monde veut cette vie-là. Oh oui, certainement. Mais pas d'exigence morale. Alors là, c'est autre chose. Mais Seigneur, te suivre? Mais bien sûr, nous sommes prêts à partir sur le champ. Bien sûr que oui. Mais j'aime bien ma liberté. J'aime bien mon petit confort, ma tranquillité. Et j'aime bien faire surtout ce qui me plaît. Seigneur, pardonnez aux autres, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Ou nous devons, nous les hommes, pardonner aux autres, se pardonner les uns les autres. Mais tu sais, Seigneur, j'aurais quand même te dire que c'est vrai ce que tu dis de pardonner. Mais quand on peut régler ses comptes soi-même, c'est quand même pas mal. Et c'est quand même mieux. Seigneur, tu nous parles de l'évangile, et tu nous parles de droiture et d'honnêteté, mais on est tout à fait normal, il n'y a rien de plus normal pour les hommes. Mais un petit mensonge par-ci, par-là, oh, tu sais, ça nous tire bien de mauvais pas, hein. Voilà, et ceci, et cela, naître de nouveau. Mais pourquoi je naîtrais de nouveau? Oh, mais certainement, tu m'as convaincu qu'il fallait changer de vie. Mais se repentir, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tu sais, Seigneur, me repentir, changer de vie, mais j'ai déjà ma religion, hein. Et je ne suis pas si mal que ça. Est-ce que tu m'as regardé, Seigneur? Est-ce que tu as vu comment je suis? Je suis pas mal, hein. Tu connaissais le pharisien dans le temple, hein? Tu me connais bien, Seigneur, pourquoi je naîtrai de nouveau, pourquoi je ferai ceci? Seigneur, je comprends pas, parce que pourquoi tu me demandes tout ça? La conclusion est la suivante. Jésus a joué de la flûte. C'est un son mélodieux. C'est l'harmonie du ciel. C'est une symphonie céleste qui descend vers les hommes de la terre. Ouais. Et nos cantiques qui sont très beaux. Ça n'aura rien à voir avec l'orchestre céleste vers lequel nous irons dans le ciel. Ouais. Alors je le dis, Jésus a joué de la flûte. Mais sur un registre, sur des partitions qui n'étaient pas les nôtres. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Sa chanson, la chanson que Jésus a voulu nous conduire, dans laquelle il a voulu nous conduire, n'était pas celle qu'on attendait. On voulait un autre air. On voulait que ça soit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, le problème, c'est que nous, notre partition et notre registre, eh bien, c'est celui des hommes qui parlent d'égoïsme, qui parlent d'orgueil, de vanité, de méchanceté, de haine et tout ça. Parce que finalement, si on décrit tout ça, on en prend quand même un petit peu pour nous, hein, comprenez? On se dit, on peut pas être quand même des anges avant d'être au ciel, hein. Eh oui. Et pourtant Jésus l'a dit d'une manière, l'a dit d'une autre, et les hommes ont répondu « Niet ». Non, non. Voilà le problème. Et pour nous dire simplement que le registre et la partition de Jésus est la suivante. Nous chantons sur une musique de flûte où il est question d'amour, mais d'amour vrai, de douceur, d'obéissance, de foi, d'humilité. Qu'est-ce que nous allons répondre? Qu'allons-nous répondre à Jésus? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Et moi, je voudrais vous dire que j'ai envie d'aller encore un peu plus loin avec le Seigneur et d'apprendre sa musique. Oui, que Dieu nous bénisse. Alors, on va prier quelques instants. On va demander au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que mes frères et moi-même, et je dis moi-même, Seigneur, je suis loin d'être à la hauteur et je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'accomplir pleinement, complètement ta volonté, et ça je le sais. Mais une chose qui est certaine, je vais te dire, Seigneur, est-ce que nous avons tous besoin lorsque nous sommes conséquents et sincères? Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Jésus. Donne-nous ta grâce. Seigneur, il est plus facile d'entendre véritablement la musique de la flûte que d'entendre des complaintes. Mais Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il y en a pour les uns et pour les autres. Certains vont être sensibilisés à la complainte, d'autres vont être sensibilisés, eh bien, au message de la réjouissance, de la joie du ciel. Mais d'une manière ou d'une autre, dans les deux cas, ta parole nous amène, Père éternel, à prendre conscience, au plus profond de nous-mêmes, que nous avons besoin de nous reprocher de toi, et de passer, Seigneur, et peut-être de renouveler une repentance permanente et constante, parce que nous ne sommes que des hommes, et nous sommes que des pécheurs. Nous sommes que des hommes, Seigneur, qui ont été touchés, en effet, par un mal insidieux, un mal invisible au plus profond de nous-mêmes. Mais que ton nom soit béni parce que notre Dieu, tu as envoyé Jésus-Christ dans ce monde en sachant, Seigneur, la nature des hommes. Et tu n'es pas venu, Seigneur, pour que nous essayions par nous-mêmes de nous sauver, mais que nous nous reposions, Seigneur, dans la foi et dans la grâce totale et complète. Alors merci Seigneur, tu nous bénis les uns des autres. Oui Seigneur, je ne veux pas parler que des autres, mais je veux parler de nous tous qui sommes là. Nous avons besoin, Père éternel, de toi pour aller jusqu'au bout. Seigneur, tu es venu pour rendre les hommes heureux. Tu es venu pour rendre ton Église heureuse. Nous amener à l'épanouissement et à l'abondance. Alors nous te disons, oui Seigneur, nous le voulons. Tu nous bénis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.